Musique.
Et sur France Musique, il est 22h30, l'heure de retrouver Benjamin François.
L'orgue est né dans un pays méditerranéen. C'est un phénomène naturel.
C'est un orgue qui comportait la couleur plein jeu, l'organopléno. En réalité, c'est un mélange qu'on n'avait jamais vraiment entendu.
Organopléno.
Un élève, c'est comme un enfant à qui on apprend à se comporter, mais en douceur.
Si on leur demandait tout d'un coup de créer un instrument dont les sons sont produits par l'air, mais l'air lui-même est projeté par une machine, et ensuite...
On se dirait, mais c'est fou, enfin, ça ne peut pas exister.
L'orgue a un rapport en tout cas avec le mystère, c'est sûr.
On jouait tout le répertoire, ça allait de Bach à Maurice Duruflet et Messiaen.
C'est un instrument qui a besoin d'un lieu pour lui.
On avait les cours au Conservatoire de Nice sur son petit orgue qu'on appelait l'orgue à roulettes, cet orgue qu'il transporte ensuite pour aller partout porter le message de l'orgue.
Je ne sais pas ce que c'est que l'orgue.
Ce sont des musiciens avant d'être des organistes.
L'orgue Thomas de Chanqueuil.
Un orgue est une œuvre d'art.
Bonsoir à tous. À 40 km au sud de Paris, au sud de Corbeil-Essonne, se trouve un petit village charmant qui s'appelle Chanqueuil, où a été érigée au XIIe siècle une abside semi-circulaire dont les vestiges carolingiens ont été repérés tout récemment sous le rond-point du cœur de l'église actuelle qui date, quant à elle, du XIIIe siècle. L'élévation intérieure de sa nef est constituée de grandes arcades et de hautes fenêtres. Les piliers rectangulaires, flanqués de colonnes engagées, surmontés de chapiteaux à feuillage, supportent les nervures de voûtes épaisses plus anciennes. Si le couvrement de la nef et sa charpente ont été modifiés, le haut vaisseau est toujours contrebuté à l'extérieur par des arcs-boutants d'origine, conférant à ce bel édifice l'allure d'une petite cathédrale. Son chœur est composé d'un sanctuaire en hémicycle à cinq travées, entouré par un déambulatoire. Son élévation est divisée en trois niveaux, grandes arcades, triforium et fenêtres hautes. Les piles adoptent une forme octogonale et comporte des chapiteaux qui pourraient être, on ne sait pas tout forcément, du XVIIIe siècle. Autre curiosité de l'église de Chanqueuil, son beffroi où subsistent des traces de trois grosses cloches, dont une seule a subsisté jusqu'à nos jours. Il s'agit de Geneviève, véritable grosse dame de 960 kg, fondue en 1566. Cette cloche est sonnée uniquement à la corde depuis sa restauration. Et depuis 1988, sept autres dames, cette nouvelle cloche, sont venues lui tenir compagnie et charment les oreilles des habitants de Chanqueuil, tout comme les nôtres actuellement. Hommage soit donc rendu au chœur formé par Simone, 450 kg, qui donne un sol dièse de 3, Cécile, beaucoup moins grosse, celle à 60 kg, qui donne un mi bémol 4, Marguerite, Monique, Marie, Solange et Colette. Par déférence pour ces dames, je ne donnerai pas leur poids. Mais la vraie raison de notre présence ici à Chanqueuil, c'est l'inauguration du nouvel orgue de 32 jeux répartis sur 3 claviers et pédales du facteur belge Dominique Thomas, qui a réalisé à Strasbourg un très bel orgue au Temple du Bouclier et qui vient de réaliser ici un instrument coloré et chatoyant au tempérament mésotonique. Isotonique, dans l'esprit du XVIIe siècle et dans une esthétique rare dans notre pays encore, puisqu'il est d'inspiration franco-flamande. Mais laissons-nous tout d'abord séduire par la finesse et la variété de ses timbres. Jean Titelouze, hymne du Veni Creator, 4 versets, par François Espinasse, à l'orgue Thomas de Chanqueuil. Le nouvel orgue Thomas de Chanqueuil ne serait pas là si Gérard Sablier, son titulaire, ne s'était dépensé sans compter pour être l'infatigable promoteur de ce projet. Un peu fou, il faut bien le dire. Mais retour sur 23 années d'un travail de persuasion tout aussi passionnant qu'acharné. Dans ce petit cadre de verdure de votre jardin, Gérard Sablier, l'heureux titulaire du nouvel orgue Thomas de l'église de Chanqueuil. Quel est votre sentiment maintenant que l'orgue est inauguré? Quel avenir allez-vous donner à cet instrument, Gérard?
Eh bien, l'avenir paraît très positif dans la mesure où, en même temps que les inaugurations, il s'agissait de notre deuxième festival. Le premier festival ayant eu lieu en octobre, mais l'inauguration a dû être différée à cause de cette ambiance de menace de grippe H1N1 qui planait sur la planète, etc. Le maire de Chanqueuil a jugé plus sage de différer l'inauguration. Nous avons eu le bonheur d'entendre en octobre Aude Heurtemat et Jean Ferrard, et donc cette fois-ci moi-même qui ai inauguré l'instrument, c'était un grand honneur qu'on me faisait, mais en même temps nous avons eu le grand bonheur d'entendre Bernard Faucroule et François Espinasse. Donc le coup d'envoi est donné et nous aurons un festival régulier une fois par an pour débuter, et nous verrons pragmatiquement comment on peut faire évoluer les choses.
Gérard Sablier, il a été dit lors des discours, mais c'est pas vraiment une surprise que le titulaire que vous êtes s'est énormément mobilisé depuis maintenant 23 ans pour que cet orgue soit construit dans l'église de Chanqueuil. Racontez-nous en quelques mots le parcours du combattant, c'est peut-être pas le mot, mais disons l'aventure depuis maintenant 23 ans que vous battez pour que cet orgue soit construit.
Oui, or, le temps passe vite, je ne me rends pas compte des efforts fournis. Il est vrai que ce serait sous-estimer les choses que de le nier. L'aventure a commencé de cette façon-là. Le sol de l'église de Chanqueuil n'est pas d'origine, c'est une chape de ciment affreuse du 19e siècle. Et j'ai eu envie de savoir ce qu'il y avait en dessous, et j'avais commencé quelques fouilles archéologiques au droit d'un pilier du chœur. Très timidement, parce que le vieux curé que nous avions à l'époque était réfractaire à la poussière, bref. Mais 50 cm de pierre de taille étaient enfouis sous le remblai. Donc de fil en aiguille, on a fait une excavation, et l'architecte des bâtiments de France a saisi cette occasion pour provoquer une réunion plénière en vue d'une demande de classement de l'édifice qui ne l'était pas, alors que depuis 80 ans, voire un siècle, les historiens qui passaient, les archéologues disaient qu'il serait urgent de demander le classement de l'église Notre-Dame de Chanqueuil. Il y a de gros travaux à y faire. Ces choses faites, depuis le 21 juin 1986, l'église de Chanqueuil est classée en totalité. Suite à cela, évidemment, une étude d'architecture a pu être élaborée par Pierre-André Lablaude, qui était architecte en chef à l'époque. Et Dominique Larpin a été nommé sur l'Essonne pour pouvoir, réaliser les travaux successifs depuis 1991 sur le chevet, puis sur le fond de la nef, où se trouve maintenant l'orgue que construisit Dominique Thomas en 2008.
Pierre Atteignant, branle simple et branle gay par Odeurtemat à l'orgue Thomas de Chanqueuil dans un CD à paraître à l'automne prochain chez Armenia.
Lorsque vous avez eu cette idée que peut-être sur ce magnifique jubé du fond de la nef, il pourrait se trouver un orgue, aviez-vous une idée précise de son esthétique ? Vous êtes-vous orienté assez rapidement vers le projet actuel ?
Alors mon idée, j'affectionne beaucoup la musique française ancienne, mais je ne voulais pas d'un orgue français, bon, dans la mesure où il existe des témoignages historiques très réputés que tout le monde connaît. Et aussi quelques très belles copies ici ou là en France, mais je ne voulais pas d'un orgue qui restreigne le répertoire. Et l'ouverture vers la musique flamande était une des possibilités. Nous en avons beaucoup parlé avec Michel Chapuis, qui est un ami très sincère. Et bon, je salue, évidemment, j'en profite d'avoir l'antenne pour le remercier. Donc, par rapport à son amitié d'une part, son érudition et son intuition par rapport au projet de Chanqueuil. Il a tout de suite compris ce qu'il faudrait, ce que je voulais. Il m'a aidé aussi peut-être à me formuler mes idées. Et il a lui-même défendu en commission nationale le projet de Chanqueuil avec toute la compétence qu'on lui connaît.
Est-ce que cela signifie que dans une commission nationale, un projet comme celui de Chanqueuil à l'époque n'était pas forcément évident et était tout au moins novateur ?
C'est vrai qu'il y avait des gens beaucoup plus... Oui, des réticences, j'allais dire des gens réservés, mais peut-être également des réticences. Néanmoins, il y a quand même eu des voix favorables. Marie-Claire Alain, par exemple, avec qui j'ai travaillé, était favorable au projet. Il y a eu des voix prépondérantes, j'imagine, pour que le dossier soit admis et que nous obtenions une subvention de l'État.
Concrètement, Gérard Sablier, un tel instrument signifie une certaine littérature. Que vous donnez-vous comme limite au départ ? Pas grand-chose, j'imagine, mais on peut aller jusqu'où, en gros, pour bien restituer la littérature sur cet instrument ?
Les possibilités avec le système des doubles feintes est assez impressionnant, puisque, enfin, je ne sais pas si je peux dire ça à l'antenne, mais la sixième sonate de Mendelssohn peut passer très, très bien sur l'orgue de Chanqueuil. Évidemment, la musique 17e est peut-être l'âge d'or qui peut être interprété sur cet instrument. Mais beaucoup de pièces de Bach sonnent très bien. Voilà, le 18e français tardif, Balbâtre, des gens comme cela sonnent très bien.
Quand on dit de la littérature 17e, peut-être pour nos auditeurs, préciser à quel compositeur nous pensons, parce qu'ils sont rarement joués, on les entend rarement. Donc peut-être dire que l'âge d'or pour la littérature européenne pour clavier, entre 1623 et 1627 à peu près, et que nous avons par exemple entre 1623 et 1626 deux livres de Titlouse publiés à Rouen, trois volumes de Tablatur a Nova en 1624 de Scheidt, La Facultà Organica en 1626 de Correa de Arauxo, et trois livres de Capricci, Ricciacari et Canzoni, par exemple, de Frescobaldi à Rome. Rien qu'en 4 ans, on a une efflorescence extraordinaire pour la littérature pour clavier. Est-ce que, pour le titulaire que vous êtes, ça signifie peut-être aussi de réorienter beaucoup son répertoire vers les débuts de la musique pour clavier ?
Je crois que ça arrive à point nommé, dans la mesure où, depuis très peu de temps quand même, nous disposons de la musique de Louis Couperin. L'orgue est parfaitement adapté pour jouer Louis Couperin, qui est sans doute le maillon qu'il nous manquait entre Titlouse et les auteurs qui ont suivi. Titlouse sonne remarquablement. Voilà, il y a beaucoup d'expérimentations à faire sur la musique de cette époque, autour de Mersenne 1630. Mais également, j'invite les compositeurs actuels à venir voir cet orgue, parce que le tempérament et les doubles feintes permettent sans doute de faire émerger des idées nouvelles.
Eustache du Courroy, Fantaisie à 6 sur Je suis déshérité par Odertemat à l'orgue Thomas de Chanqueuil. Autre acteur prépondérant, le facteur d'orgue belge Dominique Thomas, qui par cette œuvre d'art exceptionnelle a tant fait pour retrouver les accents de la tradition des Pays-Bas méridionaux et d'une musique qui a tenu une place privilégiée dans notre histoire occidentale. Dominique Thomas, le facteur qui a réalisé ce très bel orgue de Chanqueuil. Dominique Thomas, après le temple du bouclier à Strasbourg, vous voici à nouveau en France, en Île-de-France même, à Chanqueuil, pour réaliser cet instrument franco-flamand. Et donc, vous sembliez être le facteur tout indiqué pour nous parler de cette esthétique qui est chère à votre pays, la Belgique.
Voilà, bien sûr. Je veux d'abord tout d'abord signaler que, bon, je suis le responsable d'une entreprise, mais où on est 15 personnes, et que c'est aussi le travail de tous mes collaborateurs ici qu'il y a eu à l'orgue de Chanqueuil. Donc nous avons essayé de réaliser un orgue, comme on dit, franco-flamand. Moi, je trouve que c'était, comme on dit, un peu un challenge, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment beaucoup d'instruments qui existent. On a très très peu de matériel, donc il fallait réimaginer un orgue qui n'existe plus ici, mais quand même adapté à un répertoire. Toute cette musique de la première moitié du XVIIe est extraordinaire. Donc surtout une musique donc polyphonique, donc qui se différencie très très fort de ce qu'il y a eu, je vais dire, en France fin XVIIe et dans le courant du XVIIIe. C'est probablement pour ça que les instruments du XVIIIe, bon, il en reste encore assez bien en France, mais ceux du XVIIe, on ne retrouve plus grand chose, probablement à cause de cette musique qui a changé dans le courant du XVIIe siècle.
Dominique Thomas, cette esthétique franco-flamande est du XVIIe siècle, est-ce qu'elle est également très présente dans votre pays, la Belgique ?
Tout à fait. Je pense que beaucoup de choses sont parties de chez nous, en fait, de la Flandre, ce qu'on appelle les Pays-Bas du Sud, hein, où quelque part le Nord-Pas-de-Calais en faisait partie. Et donc, moi, pour créer cet instrument de Chanqueuil, je suis quand même parti beaucoup de ces instruments qu'on avait dans la première moitié du XVIIe, entre autres en Flandre, où là, il nous reste encore pas mal de choses.
Citez-nous quelques endroits comme ça que vous êtes allé visiter.
Bon, mais par exemple, j'ai beaucoup étudié toute la facture des Bremser, en fait. C'était une dynastie qui a travaillé au XVIIe dans les Pays-Bas du Sud. Je suis allé même jusque Pistoia, donc c'est un facteur flamand qui s'est installé en Italie et qui a réalisé plusieurs instruments et dont il reste un exemple, donc à Pistoia. Donc
où Bob van Asperen a fait notamment chez Eolus une partie de son intégrale consacrée aux fantaisies de Froberger, voilà, qui ont été enregistrées sur cet instrument.
Mais oui, tout à fait, tout à fait. Et alors là, nous avons beaucoup de chance à Pistoia parce que l'orgue est encore assez intact, dont les jeux à hanches, en fait. Parce que le problème pour la reconstruction de cet orgue, entre autres la construction de cet orgue ici à Chanqueuil, les jeux d'hanches flamands, on n'en trouve pratiquement plus. Et donc je suis allé jusque-là pour me rendre compte de trouver des jeux d'anges tout à fait originaux, avec entre autres des rigoles tout à fait particulières, décrites comme Mersenne le fait dans son traité.
Alors qu'est-ce que c'est qu'une rigole, sans être trop technique ? Nous ne sommes pas à la télévision, nous n'allons pas pouvoir démontrer ce que c'est. En gros, qu'est-ce qui diffère ces jeux d'anges flamands, par exemple, de jeux d'anges à la française de la même époque ?
Les rigoles ont une forme un peu différente, surtout au bout. Donc il y a un pan incliné à 45 degrés et qui, pour moi, donne un son tout à fait particulier. On peut-être déjà... Ces jeux d'anges se rapprochent quelque part beaucoup plus de ce qui se passait dans le nord, en fait, dans le nord de l'Allemagne. Et alors on peut se rendre compte justement que ces jeux d'anges se mélangent avec tout.
Matière utilisée, plomb.
Non, justement, les corps sont en fer blanc, complètement en fer blanc. Et ça, c'est une façon de faire qu'on trouve encore chez nous au XVIIIe, Oui.
On faisait en fait avec ce qu'on avait, peut-être sur place. Enfin, le choix du matériau était peut-être pas si important que cela. Il y a des aspects pragmatiques peut-être derrière.
Oui, moi je pense que c'est pour le son aussi, pour rendre un son quand même assez clair, vu que ces rigoles sont assez particulières. Et alors, c'est un grand avantage, c'est qu'on ne doit pas mettre beaucoup de support parce que le fer blanc est le tuyau est très 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 solide en fait. Mm-hmm.
C'est un matériau aussi qui se martèle exactement comme d'autres alliages ?
Non, il n'était pas martelé. C'est en forme de feuille aussi, puisque nous, on a dû reconstruire des jeux comme ça. La difficulté, quand même, c'est la soudure, en fait, qui est une technique un peu plus particulière, mais que je ne peux pas expliquer ici.
Il faut le voir, cela se vit.
Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait.
Alors, Dominique Thomas, également, ce très bel orgue que vous avez réalisé à Anvers, dans une chapelle d'hôpital, où là, il y a eu l'intégrale de Peter Cornet récemment magnifiquement enregistrée. Est-ce que c'est un instrument qui vous a également inspiré ?
Tout à fait. Donc, notre première expérience, c'est quand même la reconstruction de cet orgue Bremser dans cette chapelle à Anvers. Donc, c'était un orgue de 1675, où il ne restait plus que le buffet. Et donc, le travail a été de reconstituer cet orgue par rapport à un orgue qui existe encore, mais qui est en caisse, donc du père de Blasius Bremser, donc le Jan Bremser. Et là, ça a été une découverte très, très, très importante, en fait. Quand on a ouvert les caisses, on a vu la qualité de la tuyauterie. Malheureusement, plus de jeux d'ange, de nouveau, mais quand même des pleins jeux, des choses comme ça. Et alors, des tailles, nous, on appelle ça les tailles spaghetti, parce que c'est des tailles, mais très, 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 très étroites. J'ai eu l'occasion de pouvoir étudier un peu cet orgue aussi avec Jean-Marie Tricoteau, qui est un homme quand même passionné aussi pour tous ces instruments. Et donc on a décidé ensemble de réharmoniser même quelque part c'est un nouvel orgue, hein. Et en employant vraiment toute la technique en fait que Jan Bremser, le père, avait appliquée. Donc avec des tailles ici étroites, donc c'est un embouchage très haut. Mais c'est vrai que quand on entend l'instrument, on n'a pas l'impression d'avoir des tailles étroites. Donc ces gens étaient vraiment, pour moi, des génies, en fait, de la facture d'orgue. Et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à découvrir de ces instruments.
Thank you.
Jan Pietersson Sweelinck, Ballo del Gran Duca, par Christoph Burzens à l'orgue Bremser de 1675, rénové par Dominique Thomas en 2007, de la chapelle d'Eltzenfeld d'Anvers, aux Pays-Bas. Dominique Thomas, le traité de Marin Mersenne, on nous dit que l'instrument que vous venez de construire à Chanqueuil s'inspire du traité de Mersenne, qui est évidemment beaucoup moins connu que le traité de Dombedos, par exemple, ne serait-ce qu'il y a beaucoup moins de témoins, j'allais dire encore aujourd'hui jouables, inspirés de ce traité. Dites-nous un petit peu, quel a été votre travail par rapport à ce traité? Vous l'avez relu, j'imagine, et qu'en avez-vous retiré?
Disons que le traité de Mersenne, je pense qu'il faut le prendre avec assez bien de recul quand même, hein, parce que bon, tout n'est pas à prendre à la lettre. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'explication qu'il fait, par exemple, de certains jeux de l'orgue. Si on peut comparer, par exemple, les flûtes à des consorts de flûtes... Il y a encore des détails aussi, et je pense qu'on doit encore rechercher. Par exemple, il décrit une flûte à neuf trous. Qu'est-ce qu'une flûte à neuf trous? Donc, je pense qu'on doit encore pas mal chercher là-dessus. Et oui, il met, par exemple, aussi sur les trous qu'on peut mettre de la peau aussi fine que de la plure d'oignon. Qu'est-ce que ça peut donner comme son, ça?
Disons aussi que c'est un traité qui est divisé en 45 propositions, qui ne suit d'ailleurs pas un ordre très logique, l'esprit de l'époque étant ce qu'il est, on revient, ça pose pas de problème, la logique est pas forcément la nôtre, et la proposition 44 est complémentaire de la proposition numéro 2, etc. Il essaye aussi d'expliquer comment le son se comporte à l'intérieur du tuyau, mais il se fourvoie complètement parce qu'à l'époque on savait pas. Enfin, ça reste encore quelque chose d'assez empirique, et ce qui me paraît aussi intéressant sur ce fameux Mersenne, c'est qu'on a un philosophe, un physicien et un mathématicien. Il a publié également des traités dans ces domaines, l'orgue étant une partie de son travail. C'est aussi quelque chose d'intéressant pour nous aujourd'hui de le savoir.
Oui, tout à fait. Disons que ce qui m'a le plus aidé en lisant Mersenne, c'est essayer de comprendre un peu ce qui se passait à l'époque, en fait. Donc me retremper un peu dans ces gens... dans la première moitié du XVIIe. C'est surtout ça, je pense, c'est essayer de trouver un peu toute cette philosophie pour recréer cet orgue de Chanqueuil. Je pense que c'est surtout ça.
Et Dominique Thomas, l'articulation entre Mersenne et l'école flamande, il y a un rapport?
Mais dans les jeux à Ange, par exemple, là, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on se rend compte, quand on analyse l'orgue, par exemple, à Arscott, là, de Jan Bremser, que j'ai copié, pour faire celui d'Anvers, que ces jeux, il n'y a rien à faire, ces jeux devaient se jouer en soliste, et on sent bien que dans Mersenne, il le dit clairement aussi. Donc c'est quand même un point assez important.
Donc, à peu près en 1640-1650, quand Mersenne publie ses traités, est-ce qu'on peut dire que l'école française, l'école flamande ne sont pas encore peut-être complètement individualisées et qu'il y a des passerelles et qu'on arriverait peut-être déjà à cette époque à un orgue européen un petit peu déjà international?
Moi, je le pense. Je le pense vraiment. On se rend compte que entre la Flandre et la France, il y a, à mon avis, pas grand-chose de différent. Simplement, les facteurs d'orgue, en fait, étaient des créateurs. Donc, même s'ils font partie d'une école, eux-mêmes continuent à créer et, tout doucement, ont leur propre style. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve, oui, quelque chose d'un peu universel. Oui, européen, oui. On se rend compte quand même qu'ici, sur cet orgue de Chanqueuil, Buxtehude, par exemple, sonnait au concert de Bernard Focroul magnifiquement. Donc,
mais différemment d'un orgue Schnitger quand même. On est encore là, une différence.
Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pas vraiment l'orgue qui est fait pour jouer Buxtehude. Mais
cela fonctionne. Un peu comme un clavecin flamand est également apte à jouer Bach.
Tout à fait. C'est vraiment la même chose. Oui. Mais vu justement que cet orgue est un orgue polyphonique où on peut employer les jeux individuellement, comme beaucoup dans le nord d'Allemagne, on sent que ce répertoire fonctionne quand même très très bien. Mm-hmm.
Une question qui est intéressante aussi à poser à un citoyen belge que vous êtes, c'est peut-être aussi les mélanges dont on n'a pas l'habitude quand on registre un instrument par grand plan. Vous dites qu'on peut utiliser quasiment chaque registre individuellement en tant que jeu soliste. Est-ce qu'il y a des mélanges comme ça, typiquement flamands, qui nous sont un peu inconnus, vus depuis la France ?
Je pense à, par exemple, oui, la montre 8 et la flûte d'allemand, par exemple. Ça, c'est des registrations qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir faire, je pense, ici en France. Le bourdon 8 et le sifflet. C'est apparemment...
8-1, donc.
Voilà, 8-1. C'est monnaie courante. Des jeux d'anches basés... Donc, le jeu d'anches de 8 pieds est la base. Et on ajoute le nazar ou une quinte à 2 pieds. Tout ça peut se faire.
Sans nécessairement mettre les fonds derrière.
Voilà, justement. Je pense que c'est une des choses fondamentales, en fait, dans la registration de ces instruments.
Est-ce que le plénum d'un tel instrument se compose comme le plénum d'un orgue allemand, par exemple ?
Il y a pas mal de ressemblances entre le plénum allemand. C'est des plénums polyphoniques. Ici, dans le cas de Chanqueuil, c'est avec des répétitions tous les deux. Donc, comment on trouve, même chez Gottfried Silbermann, quelque part, donc au 18e, en Allemagne.
Question aussi intéressante à poser au facteur d'orgue que vous êtes. Les reprises de mixture, ça se passe comment dans un orgue flamand ?
Donc c'est très proche de ce qu'on avait en Allemagne, en fait, avec des répétitions tous les deux. Donc,
octave par octave.
Oui, comme Mersenne le propose aussi, entre parenthèses.
John Böll, Ein Kind ist uns geboren, par Christoph Bursens à l'orgue Bremser Thomas de la chapelle d'Elzenfeld d'Anvers, aux Pays-Bas. Dominique Thomas, l'idéal sonore d'un instrument flamand. Quels sont un petit peu les jeux caractéristiques d'un tel instrument ?
Bon, je vais faire la comparaison avec l'orgue à Anvers. Hein. Je pense que c'est intéressant. Donc si je prends la composition de l'orgue, on a une montre de 8. donc ça c'est pas rare, un quatre pieds en principal aussi. On a une flûte de quatre qui est elle plutôt une flûte à biberon. Nazar, même chose. Il y a donc des jeux à biberon dans ce cas-là aussi. Et puis
un jeu à biberon, qu'est-ce que c'est?
Ah, bon, ça ressemble fort à ce qu'on appelle la flûte d'allemande en France, en fait. Hein. Et donc, le dessus, on appelle ça biberon parce que ça a un peu la forme d'un biberon avec une
tétine.
Voilà, c'est ça. Et puis, alors, il y a une tierce, mais là, la tierce est en principal, dans ce cas-ci. À deux pieds, il y a un rang de fourniture et un petit rang de cymbales de deux et une trompette en fer blanc. Donc là, avec les corps en fer blanc. Alors où ça se corse un peu, c'est au positif. Donc là, on a un bourdon, une flûte de quatre dans ce cas-là. Il y a deux pieds, c'est très fréquent, en flûte et en principale. Un dessus de sesquialtera, un petit plénum et un chromorne. Voilà. Donc ici, on retrouve surtout, dans l'orgue flamand, on ne retrouve par exemple pas de tierce en flûte. Qui, à mon avis, en France, la tierce flûtée est quand même apparue aussi déjà au milieu du XVIIe siècle. Là, on la retrouve, entre autres, à Reims, dans la région de Reims, en fait, une flûte assez large.
Est-ce qu'à l'époque, au XVIIe siècle, en Flandre, on connaissait aussi les claviers coupés, basse et dessus?
Je n'en ai pas trouvé beaucoup, en fait, en Flandre. Par contre, l'orgue ici en Anvers, c'est un orgue avec octave courte. Les claviers vont jusqu'au quatrième do, donc c'est des petits claviers. Et comme pédalier, c'était souvent la première octave, et qui est en octave courte, donc il y a très très peu de notes au pédalier, et c'est une pédale accrochée en général.
Est-ce que ça veut dire que c'est un orgue à deux claviers? Est-ce que ça veut dire que le positif sert de clavier solo avec accompagnement au grand orgue? L'inverse est aussi possible?
On peut faire vraiment l'inverse aussi. Donc, c'est bon, il y avait des positifs de do en Flandre aussi, hein, mais c'était souvent quand même un positif dans le socle avec une façade et la console derrière. Et même, on se rend compte qu'on peut facilement accompagner avec le positif des jeux solo au grand orgue. Mais bon, ceci, j'ai parlé de l'orgue que nous avons restauré à Anvers, qui est un petit orgue quelque part de 20 jeux. Mais on peut retrouver, si on va, je pense, à Gand, par exemple, deux plus grands instruments, à trois claviers, et avec une pédale, où on retrouve même déjà un principal de 16, un 8 pieds ouvert, une fagotte de 16, et une trompette de 8 aussi. Et parfois une chalmie, donc c'est un clairon de 4, en fait. Oui.
Dans le cas comme à Gand, où on a un troisième clavier, est-ce que ça veut dire qu'on a un Brustwerk, ou bien où se situe le troisième clavier?
Personnellement, on ne peut pas vraiment le dire, puisque ces instruments n'existent plus. Mais pourquoi pas, peut-être en Oberwerk.
Oui,
tout à fait, tout à fait. Je pense que ça pourrait être une bonne solution. Ou alors, ce qui se passait aussi parfois, c'est que, par exemple, grand orgue et un deuxième clavier étaient sur le même plan. Donc on pouvait retrouver ça aussi. Et alors le troisième clavier en positif de do. Voilà.
Côté jeu de pédale, quels sont un petit peu les fondements, le Untersatz de tels instruments?
On retrouve en tout cas un principal de 16, mais on retrouve aussi fréquemment des bourdons de 16, en fait. Mais je n'ai pas vu d'orgue ou de composition d'orgue où on descendait plus bas que le 16 pieds.
Le pédalier flamand à l'époque, déjà un pédalier allemand?
Les exemples qui nous restent pas, en tout cas, c'est tout à fait archaïque, hein, les pédaliers. Si je prends par exemple l'orgue de Longueville, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est quelques touches qui sont dans le soubassement de l'orgue. Bon, c'était pour faire des notes tenues.
Et pour le fun, un petit rossignol aussi, qui est là-dessus. Vous avez retrouvé ça dans des orgues flamands également de l'époque?
Oui, donc il y avait des rossignols, il y avait des tambours, bon, il n'y avait pas des castagnettes.
Hein. Oui, c'est ça, à l'orgue italien. Oui,
ou espagnol.
Oui. Mais c'est vrai que le rossignol est fréquent et souvent même à plusieurs tuyaux, en fait.
Peter Cornet, Fantaisie du premier ton par François Espinasse, à l'orgue Thomas de Chanqueuil. Alors nous avons, grande question, nous avons là, au niveau du tempérament, quelque chose d'extrêmement typé. Un tempérament mésotonique, donc rappelons, 8 tierces pures, et cette caractéristique d'un grand calme sur les tons majeurs, etc. Ce qui donne effectivement une couleur immédiatement à toute la littérature de cette époque. Cela s'est imposé à vous comme une évidence, ce tempérament ?
Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que je pense que tous les orgues n'étaient pas mésotoniques, même à cette époque-là. J'ai restauré un instrument dans la région de Liège qui serait attribué à Philippe II le Picard. Et bon, cet orgue a été transformé, mais il reste un fond de tuyauterie. Et dans le cadre de cette restauration, nous avons dû rallonger, refermer les tuyaux, par exemple, du Prestan 4. Et la trouvaille, c'était que, bon, on a un tempérament là qui ressemble étrangement à ce que Schlick faisait, en fait. Où il n'y a pas de tierce pure, et où certaines tierces battent comme les quintes, qui donne aussi un effet de calme et de plénitude. Le tempérament mésotonique ici, dans ce cas-ci, ne devait pas nécessairement s'imposer. Il y a d'autres instruments, par exemple, où j'ai fait des propositions pour refaire des orgues 17e, où justement je souhaiterais faire ce tempérament où les quintes sont partagées au 5e avec les tierces qui battent comme les quintes, parce que je pense que ça pourrait vraiment être un tempérament intéressant. Mais bon, dans ce cas-ci, après discussion avec l'organiste Gérard Sablier, ça a duré des mois, avec Michel Chapuis, je crois qu'il y a eu des conseils de Marie-Claire Alain, des tas de gens. Donc on avait imaginé aussi de faire un orgue où on pouvait changer mécaniquement les dièses et les bémols. Et puis moi, je trouvais que c'était dommage parce que y a une technique, en fait, puisque ces orgues avec des doubles feintes ont existé. J'ai encore retrouvé un écrit l'autre jour où à l'église Saint-Géry à Bruxelles, il y avait fin 17e, juste avant la restauration de l'orgue, un mi bémol, un ré dièse, un sol dièse et un la bémol, aussi donc des doubles feintes. Donc il y a eu quand même pas mal d'instruments qui ont été faits sous cette technique, et pour moi ça me paraissait intéressant de le faire ici à Chanqueuil.
Et Dominique Thomas, quand même, toute cette littérature que nous avons entendue sous les doigts de Gérard Sablier, Bernard Faucroul, François Espinasse, c'est vraiment une littérature où on a besoin quand même de cette couleur, sans quoi elle menace de devenir franchement rébarbative.
Ah oui, ça je trouve aussi. Et en fait, toutes les techniques de registration changent, en fait. Hein, si on emploie dans cet orgue, ici à Chanqueuil, les registrations traditionnelles qu'on propose à la fin du 17e et dans le courant du 18e sur les orgues, je vais dire, classiques français, ça devient très, très, très vite pâteux. L'orgue, on n'entend plus toutes les voix. Donc il faut vraiment retrouver les registrations qui vont nous aider à vraiment retrouver toute cette polyphonie, en fait, dans toute cette musique du 17e. Frauberger, ça sonnait magnifiquement, c'était très très beau. Gérard Sablier a joué du swilling, oh, c'était... Enfin, pour moi, c'était un plaisir. Oui. En tout cas.
On redécouvre ces compositeurs avec de tels tempéraments, c'est évident. Question sur le bois, ce que l'on voit, parce que aussi, ce sont des instruments où il y a aussi beaucoup à voir. Dominique Thomas, qu'avez-vous fait avec ce buffet ?
Mais disons que l'idée m'est venue d'employer le châtaignier, puisqu'il y a certains instruments qui étaient en châtaignier. Et je pense qu'on a très très bien fait, parce que ce bois, au niveau de la résonance, est vraiment intéressant. Je ne sais pas bien on ne sait pas bien le prouver, bien entendu, hein, mais j'ai eu l'impression que ce bois aide justement à pousser le son vers la nef, rassemble bien les sons. Bon, c'est vrai qu'il y a une question aussi de travailler avec une épaisseur de panneau pas trop épaisse, par exemple, des choses comme ça, donc ça, on y fait fort attention, mais je pense quand même je trouve ce bois très 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 intéressant. On vient de faire aussi un orgue à Saint-Pierre d'Albigny en Savoie, à côté de Chambéry, où on a de nouveau réemployé le bois de châtaignier. Et je retrouve un peu la même sensation, en fait. Donc, je dis à tous mes collègues, essayez-le.
C'est bien connu, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Alors, dernière question à Dominique Thomas. Justement, vous nous avez fait comprendre que vous êtes encore en recherche par rapport à ces instruments et qu'il y a encore une grande part de recherche et d'empirisme dans votre travail. J'imagine que vous n'avez pas fait de dessin 3D à l'ordinateur, si ?
Pas dans ce cas-ci. Peut-être quand même pour le tracé des mécaniques, quand même. Hein. Mais je trouve... Bon, ici, je ne dis pas qu'on a trouvé la vérité. Disons que... Ici, le facteur d'orgue est presque un interprète aussi. Bon, je connais quand même pas mal cette littérature. Donc, en l'harmonisant, j'ai vraiment essayé de trouver les équilibres qui, moi, me semblaient intéressants pour que cette littérature sonne vraiment très bien, par rapport aussi à ce que j'ai vu et entendu d'orgue de cette esthétique, en fait. Hein. Mais bon, on ne peut pas avouer qu'on a trouvé la vérité. Et dans notre métier, je pense qu'il faut être... L'humilité, c'est le plus important, et surtout la remise en question. Chaque fois qu'on aborde un chantier, c'est primordial dans notre métier. Autrement, je pense que ça ne sert plus à rien de le faire.
Thank you.
Johann Jakob Froberger, toccata 11, par François Espinasse à l'orgue Thomas de Chanqueuil. Un des organistes présents au second week-end d'inauguration du 14 au 16 mai dernier, il y avait eu un premier week-end en octobre dernier, mais à cause de la grippe H1N1, les cérémonies officielles ont dû être repoussées à ce dernier week-end du 14 au 16 mai dernier, d'où finalement le public qui a dû ressortir content puisqu'il a eu deux week-ends d'inauguration au lieu d'un. Et donc c'était François Espinasse qui était présent à ce second week-end, professeur d'orgue au CNSM de Lyon, co-titulaire de l'église Saint-Séverin à Paris, et récemment nommé co-titulaire de l'orgue de la chapelle du château de Versailles. François Espinasse, vous voici aussi à Chanqueuil pour ce troisième concert d'inauguration. Et nous venons de vous écouter, on sent une jubilation dans votre jeu, un bonheur de jouer cet orgue de Dominique Thomas.
Ah, effectivement, je suis très très heureux. D'abord, j'étais très heureux de le découvrir. La première fois que je suis venu ici, il n'était pas encore tout à fait terminé. Et là, je suis très très heureux plus de ça, il se joue très bien, la mécanique est très agréable, ça sonne bien, il y a un bon rapport entre le toucher et le sonner. Voilà.
Qu'avez-vous voulu faire découvrir comme compositeur aux gens qui, nombreux, sont venus vous écouter ce week-end pour ce concert d'inauguration ?
Eh bien, j'ai voulu faire un programme de musique européenne, on va dire, vraiment. Bon, c'est un facteur belge qui l'a construit, cet orgue, et donc pour moi, la Belgique unie au cœur de l'Europe, c'est symbolique pour moi, c'est un peu politique même. Donc, voilà, c'est pour ça que je le dis. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai prévu donc des différents auteurs, donc de la musique française, Jean Titlouse, lui-même compositeur européen, on va dire, Eustache Ducoroy, Louis Couperin, et aussi des compositeurs, un compositeur flamand, bruxellois, Peter Cornet, et des compositeurs germaniques, Froberger avec des influences italiennes, des influences de Frescobaldi, et Matthias Weckmann et Buxtehude, des maîtres de l'école d'Europe du Nord, de l'Allemagne du Nord, Danemark avec Buxtehude, voilà.
François Espinasse, le tempérament mésotonique de cet instrument, je rappelle, 8 tierces pures, est un tempérament qui va particulièrement bien à cette littérature, toute cette couleur qui ressort. Est-ce que pour vous, elle est absolument maintenant évidente ? C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de jouer des orgues en tempérament mésotonique quand même, encore aujourd'hui.
C'est vrai, c'est vrai. Et surtout, je dirais, en région parisienne. Hein, voilà. Donc, c'est un plaisir de faire sonner cette musique avec un tempérament adéquat et donc avec les doubles feintes, bon, ce qui oblige à une certaine rigueur dans la conduite des voix, la conduite des doigts aussi. Non seulement des voix, mais des doigts. Éviter les croisements. Et donc voilà, il faut faire attention où on pose les doigts sur le sol dièse, la bémol, mi bémol, ré dièse, voilà, ça oblige à une grande concentration.
Vous êtes professeur au CNSM de Lyon, est-ce que c'est un répertoire que vous faites également travailler à vos élèves et fait-il partie maintenant dans les concours notamment du répertoire admis et exigible à n'importe quel candidat ?
Oui, oui, oui. À Lyon, donc, nous avons un orgue de Gerhard Krenzing qui permet de jouer la musique ancienne. Et oui, bien sûr, c'est très naturel pour mes étudiants d'aborder ce répertoire. Oui.
Eh bien, merci et longue vie à l'orgue de Chanqueuil, c'est ce qu'on va dire, bien sûr.
Oui, et je suis encore plus heureux de jouer cet orgue ici avec la cloche toute flamande. Bien que étant Aveyronnais de sang, je suis né en région parisienne dans l'Essonne, donc je suis très content d'avoir un orgue comme celui-là pas très loin de chez moi. Voilà. Il y a des orgues dans l'Essonne, donc il faut les jouer. Il faut que les organistes viennent ici pour jouer de pareils instruments. Merci.
Dietrich Buxtehude, préludium en sol mineur, Buxtwv 148 par François Espinasse, à l'orgue Thomas de Chanqueuil. Le mot de la fin, nous le laisserons à Bernard Faucroule, présent à Chanqueuil le samedi soir pour le second concert d'inauguration de ce week-end, des 14 au 16 mai dernier. Bernard Faucroule, vraisemblablement, vous avez eu beaucoup de plaisir à jouer cet instrument de votre compatriote Dominique Thomas. Dites-nous ce que vous retenez de cet instrument maintenant que vous l'avez joué et inauguré.
Alors c'est un instrument que j'aime beaucoup, effectivement, qui est très créatif parce que d'un côté, il tente de retrouver les racines de l'orgue franco-flamand du XVIIe siècle, mais comme on a gardé pratiquement très peu de choses de cette époque-là, des éléments épars ici et là, il y a forcément une tentative de reconstitution qui implique de la part du facteur une certaine audace, une certaine créativité. Et je trouve qu'il nous propose un orgue très européen, qui à la fois est encore un orgue très polyphonique dans l'esprit de la Renaissance, mais qui conduit aussi vers l'orgue français. Et donc, bien entendu, Louis Couperin, Tite Louze, etc., il sonne tout à fait merveilleusement, mais c'est aussi un orgue où Frescobaldi, Froberger et même Buxtehude peuvent trouver un refuge très accueillant.
En écho à l'émission que nous avons faite il y a quelques semaines sur tout l'intérêt qu'il y a de composer pour ce type d'instrument, est-ce que vous le sentez apte à pouvoir redonner cette littérature contemporaine sur un orgue d'esthétique mésotonique avec un tempérament mésotonique ?
Ah oui, il y a tout à fait moyen de jouer de la musique contemporaine ici. C'est vraiment un instrument d'aujourd'hui pour moi. Je ne sais pas dans quelle mesure le 17e a vraiment vu ce type d'instrument à trois claviers avec des doubles feintes, deux par octave, etc. Il y a des traces de cela, mais aucun instrument vraiment préservé. Donc c'est une démarche très très forte et elle appelle aussi la création à mes yeux. Je pense qu'il y a du répertoire existant, il y a surtout du répertoire à composer.
Justement, Bernard Faucroule, sur l'existence de ces doubles feintes, est-ce que vous ne croyez pas que les organistes à l'époque avaient plutôt tendance à transposer un grand prélude au lieu de le jouer dans une tonalité impossible ?
Non, je pense que les doubles feintes ont existé pendant tout le milieu du XVIIe siècle dans différents pays parce que les compositeurs les plus avancés, les plus prospectifs, cherchaient à sortir des contraintes d'un tempérament mésotonique pur tout en gardant ces couleurs merveilleuses et tierces pures, etc. Et donc on voit bien, aussi bien chez les Italiens, Frescobaldi en particulier, que chez les Allemands et même chez les Français, qu'il y a des tentatives d'aller plus loin, notamment dans les modulations, d'utiliser des ré dièses, des la bémols. Alors après, d'autres solutions ont été trouvées qui ont égalisé le tempérament, mais en perdant la pureté de l'accord. Donc je pense que pour la musique du milieu du XVIIe siècle, ce type d'instrument, encore assez peu fréquent dans les pays francophones, nous offre des pistes tout à fait intéressantes pour cette musique-là. Je pense aussi à Weckmann, par exemple, qui avait un instrument comme ça à double feinte à Hambourg et à pas mal d'autres.
Merci.
Dietrich Buxtehude, Fantaisie sur le choral Gelobet seist du Jesu Christ, Box WV 188, par Bernard Faucroul à l'orgue Thomas de Chanqueuil. Et comme chaque semaine, nous ne saurions terminer Organo Pleno sans vous donner un aperçu de l'actualité de l'orgue en France pour la semaine qui vient. Jeudi 27 mai à Marseille, à Notre-Dame-du-Mont, inauguration de l'orgue du Croquet, restauré, avec Daniel Roth. À 12h45, toujours jeudi 27 mai, à l'église du Gesù à Toulouse-les-Orgues, déjeuner d'orgue avec Miki Nagata au trombone et Kaori Sakai à l'orgue, dans des œuvres de Boelmann, Guillemant et Weber. Vendredi 28 mai à Paris, 19h, à l'église Saint-Sulpice, dans le cadre du 10e salon des Jeux mathématiques, Dominique Proust donnera un concert au grand orgue de l'église Saint-Sulpice sur le thème musique et astronomie, avec des œuvres de Racquet, Buxtehude, Bach, Galilée, Herschel, Reger, Delru, Holst et Vierne. À 20h30 à Bordeaux, à l'église Saint-Bruno, concert du chœur de la basilique Saint-Seurin de Bordeaux, orgue et direction Pierre-Pascal Berguet. À l'orgue, Thierry Grondin. À Courbevoie, à 20h30, à l'église Saint-Maurice du Bécon, État d'âme, aspiration romantique par Louis Robillard, qui vous jouera des œuvres de Brahms, Fauré, Franck et Liszt. Samedi 29 mai, à 20h30, à Carpentras, à l'église Saint-Siffrin, une route des orgues en Vaucluse vous propose un concert, chœur, ensemble instrumental, clavecin et orgue, avec des œuvres de Coprario, Purcell, Mozart, Mendelssohn, Bruckner, Fauré, Poulenc et Duruflé, avec le chœur à Piacere, d'Avignon, Anne Fageau, direction, l'ensemble Languedoc et Alain Cahagne, orgue et direction. À 20h30 à Orsay, église Saint-Martin-Saint-Laurent, hommage à Pierre Nérini, avec Loïc Poulain à la flûte, Frédéric Jonguejean au violon et Henri Paget à l'orgue, dans des œuvres de Bach, Nérini, Bartok et Jean Alain. Dimanche 30 mai à Mouzon, concert flûte et orgue, par Mathilde Le Tac, flûte, et Mathieu Freiburger à l'orgue. À Cahors, toujours dimanche, cathédrale, Bernard Tilly à l'orgue, dans un hommage à Maurice Duruflé. À 15h, à Saint-Maur-des-Fossés, église Saint-Hilaire, dans le cadre de l'année Robert Schumann, l'intégrale des œuvres pour orgue ou piano pédalier, avec Angèle Dionneau et Étienne Pierron à l'orgue. 15h30 à Sanary-sur-Mer, Daniel Gloss du monastère de Berne en Suisse, dans des œuvres de Bach, Grigny, Bruckner et Kleber. À 17h à Saint-Tropez, église Notre-Dame de l'Assomption, Florence Rousseau à l'orgue avec des œuvres de la famille Bach. À 17h à Étampes, à la collégiale Notre-Dame, musique des Flandres à la Renaissance avec Jan-Willem Janssen à l'orgue et l'ensemble vocal La Capilla Flamenca, direction Dirk Snellings, avec des œuvres de Pierre Delarue, Hans-Leo Hassler, John Bull et Jacob Obrecht. À Paris, à 17h, toujours dimanche, église Saint-Germain-l'Auxerrois, Myriam Chiaparin à la flûte, Hervé Chiaparin au violoncelle, Henri de Rohan Serzmak à l'orgue, dans Bach, Lachner, Schumann et Alain. À 17h30 à Paris, à l'église Saint-Eustache, Francesco Filidei, dans la symphonie pour orgue numéro 2, opus 13 de Charles-Marie Vidor. Et à Cannes, à 18h30, église Notre-Dame du Bon Voyage, Raphaël Tambieff. Et nous terminerons par Bordeaux, à l'abbatiale Sainte-Croix, sur l'orgue Dombedos-Coirin, à 21h, ciné-concert avec le titulaire Paul Gousseau, avec des improvisations à l'orgue sur le film Visage d'enfant de Jacques Feder, un très beau film plein d'émotions. Et c'est ainsi que nous refermons ce volet d'Organo Pleno pour cette semaine. La semaine prochaine, nous nous pencherons, maintenant que les vapeurs de l'année Haydn se sont quelque peu dispersées, sur les œuvres pour orgue de l'Orphée d'Eisenstadt, qui, comme vous pourrez le constater, ne manque pas d'intérêt. Une émission que j'ai intitulée « Papa Haydn et l'orgue ». C'est dans Organo Pleno, mardi prochain, dès 22h30. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à consulter les pages de l'émission sur le site de France Musique. Vous pouvez également réécouter cette émission autant de fois que vous le désirez durant 4 semaines à partir de ce soir. Excellente semaine à tous. Merci pour votre fidélité et vos nombreux courriels. Dans quelques instants, après les communiqués, j'aurai le plaisir de céder le micro à Franck Medioni pour Jazzistique. Excellente nuit à l'écoute des programmes de France Musique et un immense merci à France Bleu Alsace.
« Le fauteuil pour l'orchestre, à retrouver dans Musique Matin, du lundi au vendredi à 7h55. Des places de concert à gagner, c'est au 6-20-30. Vous envoyez par SMS le numéro du concert choisi, 35 centimes plus le prix du SMS.
Couleur du monde, ce n'est pas de la world, pas exactement de la musique.